France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine, réalisée par Hélène Trigueros et à la technique ce matin, c'est Raphaël Rousseau. En Amérique latine, la droite revient en force sur un positionnement radical en rupture avec les gouvernements de gauche. C'est le dernier épisode de cette série qui nous a conduit au Chili et en Bolivie. Aujourd'hui, l'Argentine où l'ultralibéralisme fait recette, à en croire les résultats des dernières élections législatives. Javier Milei faisait campagne en parlant de lui à la troisième personne.
Javier Milei est un outsider, un libéral libertarien, qui, face à un pays en train de sombrer, a décidé de se lancer en politique pour essayer, à travers les idées de la liberté, de mettre un terme à cette décadence.
Chaque fois que je l'entends, je suis ému aux larmes. Je suis bouleversé par le changement d'époque, l'idée que Milei soit élu. J'imagine la croissance que l'Argentine va connaître grâce à lui. Ça me transporte.
Ce qu'on vit là est une vraie catastrophe sociale. 1,5 million d'enfants vont se coucher le ventre vide. Aujourd'hui, l'Argentine a faim. Les pauvres ont absolument besoin d'un État fort qui occupe le terrain et redistribue les richesses. La liberté dont parle Milei, c'est celle des riches, de ceux qui peuvent choisir entre aller en vacances à Miami ou à Paris. Les pauvres n'ont pas cette liberté.
C'est vrai que depuis que Javier Milei est au pouvoir, les Argentins qui étaient déjà riches peuvent davantage voyager, le peso argentin ayant repris de la vigueur face au dollar. Reste à voir l'effet de leur voyage sur leur vote. Balzac mettait en garde contre le voyage qui, à force de découvertes de pratiques contraires, fait devenir sceptique et méfiant sur le monde. Je vous laisse méditer. Blague à part, il semblerait que les classes populaires et les classes surtout les plus aisées aient basculé récemment en faveur du parti de Javier Milei, La Liberté Avance, et voter pour ses candidats aux dernières législatives au mois d'octobre, alors que les sondages annonçaient un revers pour Javier Milei, fragilisé par une série de scandales de corruption, une économie encore convalescente. Mais les électeurs ont finalement renouvelé leur confiance au président argentin. La Libertad Avanza a obtenu 41% des suffrages et renforcé non pas sa majorité, mais sa minorité de blocage. Cette victoire offre à Javier Milei un levier pour poursuivre son projet ultralibéral et anti-système. 2 ans après son arrivée au pouvoir, il continue à promettre la destruction de l'État-providence, la dérégulation des marchés, à son actif une baisse significative de l'inflation et de nouvelles aides négociées avec le FMI et les États-Unis. Mais à quel prix? À qui profite cette politique? Et qui, à l'inverse, fragilise-t-elle? 2 ans après son élection comme président, sait-on mieux saisir Javier Milei et peut-on davantage définir le miléisme? Bonjour David Coppello.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé au Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, le CREDA, et vous avez fait paraître aux presses universitaires de Rennes au mois de mars les droits humains armés, guérilla, dictature et démocratie en Argentine. Alors merci d'être avec nous pour faire peut-être d'abord un lien avec l'émission d'hier sur la Bolivie, au cours de laquelle nos invités nous ont expliqué combien les partis de droite avaient bénéficié d'un report de voix des électeurs déçus de la gauche au pouvoir depuis 20 ans. Alors en Argentine, Javier Milei ne ressemble en rien au nouveau président bolivien Rodrigo Paz, mais est-ce qu'il a lui aussi bénéficié en octobre, et par ailleurs il est déjà au pouvoir depuis 2 ans, mais est-ce qu'il a bénéficié en octobre de nouvelles voix venant de l'électorat péroniste?
Alors, je dirais pas nécessairement en octobre, mais il me semble qu'un trait caractéristique de Javier Milei dans sa montée en puissance au cours des dernières années, c'est d'avoir réussi à construire une droite radicale et populaire en Argentine qui s'identifie avec un certain nombre de classes du bas de la société argentine, précarisées, parfois même pauvres, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire argentine. qui était caractéristique de Milei et de son électorat il y a 2 ans, qui est peut-être un petit peu en train de changer. Hein, Milei étant de plus en plus similaire finalement dans son électorat à hein, une droite assez classique, quoique radicale.
Sans oublier que le parti, est-ce qu'on peut dire parti péroniste, mais les forces péronistes réunies sous la bannière de la force de la patrie, Fuerza Patria, a remporté 33% des voix, mais comme une partie seulement des sièges était renouvelée, c'est quand même lui qui en compte aujourd'hui le plus, 97 contre 93 pour le parti de Javier Milei, mais les résultats ont un petit peu changé depuis le lendemain des élections, ça a été assez serré.
Oui, alors il s'est passé des choses très intéressantes depuis l'élection législative de mi-mandat qui a eu lieu le 26 octobre, et au cours de laquelle on renouvelait la moitié de la Chambre des députés et un tiers du Sénat. Et c'est notamment au niveau de la Chambre des députés que des mouvements, si vous voulez, dans les blocs parlementaires ont eu lieu depuis, qui sont très intéressants à analyser et qui montrent un petit peu la manière dont les élites politiques recalculent un petit peu leur stratégie en fonction de ce qu'elles voient comme étant un succès ou un échec des différentes composantes de ce qu'est la Chambre des députés aujourd'hui. Et donc Milei, qui, à l'issue des élections du 26 octobre, avait un groupe parlementaire attendu de 80 députés, ce qui était plus du double de ce qu'il avait auparavant, serait aujourd'hui à 95 députés, ce qui lui permettrait d'obtenir la première minorité à la Chambre des députés, puisque en parallèle, les péronistes, qui avaient une centaine de députés, en ont perdu 5 ou 6, en tout cas le bloc parlementaire péroniste, serait donc deuxième à 2 ou 3 députés près.
Donc ça a un petit peu changé, et c'est vrai que ça change, ça change quelque chose, pas non plus tant que ça, parce qu'en réalité, vous avez parlé de minorité, le parti de Javier Milei reste minoritaire, mais un peu moins minoritaire, donc il a une minorité de blocage assez importante.
Oui, alors c'est peut-être même plus important que ça, hein, ce qui est en train de se passer. On a un parti de Milei qui reste effectivement la première minorité, mais qui, allié avec, disons, la droite plus classique, qui est représentée par le pro de l'ancien président Mauricio Macri, et par une partie de l'Union Civique Radicale, qui est le plus vieux parti politique argentin, qui est plus ou moins allié avec le gouvernement, tout ça mis ensemble fait environ 120 députés, ce qui est très très proche de la moitié de la Chambre des députés. Donc finalement, Milei qui avait dû négocier ou essayer de passer en force puisqu'il était très minoritaire au Parlement ces 2 dernières années, est dans une situation de minorité maintenant très très relative, hein, et en tout cas en montée en puissance, disons.
Est-ce que ça veut dire que Javier Milei compte encore beaucoup sur eux, les autres partis de droite, ou néanmoins il essaye d'être de plus en plus indépendant, de plus en plus autonome?
Alors je dirais les deux choses à la fois. Il a besoin des autres partis de droite pour faire voter des lois au Parlement, ce qu'il n'a quasiment jamais fait, hein, ces 2 dernières années. Il a gouverné principalement par décret, en essayant de contourner le Parlement. Maintenant, c'est vrai qu'il est possible qu'il arrive, par exemple, à faire adopter pour la première fois de son mandat un budget. Ce qui est nouveau, ce qui est assez frappant, hein, dans l'exercice, dans la façon dont s'exerce le pouvoir en Argentine, qui est un système très présidentialiste. On a un président qui est là depuis 2 ans et qui renouvelle le budget qui avait été voté par le gouvernement précédent.
Et qui agit par décret par ailleurs.
Voilà. Donc on a un certain nombre de choses qui changent au Parlement et qui font qu'effectivement les autres partis de droite qui sont dans le gouvernement, hein, par ailleurs, sont complètement nécessaires à l'équilibre du fonctionnement gouvernemental. Mais en parallèle, Milei est en train d'essayer de les absorber. Et ce qu'on voit, c'est une liquéfaction en fait des groupes parlementaires de cette droite plus classique, avec un grand nombre de ces députés qui sont en train de rejoindre le groupe parlementaire de Milei. C'est ça qui explique qu'il soit passé de 80 à 95 en un mois et demi, en réalité.
Est-ce qu'il reste des partis à droite qui refusent de se joindre à Milei, qui ne se considèrent pas être de cette droite-là?
Alors oui, qui refuse de rejoindre le parti en tant que tel ou le groupe parlementaire en tant que tel, ça continue d'exister. Néanmoins, je pense qu'on peut dire sans trop s'aventurer que l'ensemble de la droite argentine, quelle que soit la définition qu'on en donne, hein, est prête à dialoguer et négocier avec Milei pour arriver à un certain nombre d'accords, au moins ponctuels sur un certain nombre de choses.
Donc une sorte de fusion des droites au niveau du Parlement, également au niveau des électeurs, ces électeurs qui se sont hissés socialement, qui ont besoin peut-être aujourd'hui, comme en Bolivie d'ailleurs dont on parlait hier, de se projeter dans leur petite affaire, leur micro ou auto-entreprise, qui se sentent compris par un candidat libertarien et libéral comme Milei. On peut avoir des analyses assez fines de cette bascule-là.
Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, l'électorat de base de Milei, hein, celui qui lui a permis d'atteindre 30% au premier tour de l'élection présidentielle il y a 2 ans, était très marqué par... déjà, c'était surtout des hommes, enfin, c'était plus des hommes que des femmes. C'était beaucoup les jeunes, c'était beaucoup des personnes moins diplômées et c'était en partie des personnes moins aisées que le reste de l'électorat. Donc on avait là un substrat électoral très intéressant, hein, très, très frappant, notamment ancré dans l'économie formelle argentine, qui est très importante. Il y a environ 40% de la population qui travaille dans l'économie informelle, donc concrètement au noir, et qui vit dans une forme de capitalisme complètement dérégulé déjà, pour lequel le discours milléiste, libertarien, anarcho-capitaliste, etc., fait écho, en quelque sorte. Donc il y a une forme de reconnaissance mutuelle de ce micro-entrepreneuriat qui se reconnaît dans un candidat qui veut mettre à bas l'État social, l'État régulateur, etc. Et ça, c'était le point de départ, si vous voulez, de la montée en puissance du milléisme. Effectivement, les choses ont un petit peu changé dans la dynamique. Ça ne veut pas dire que cet électorat-là a complètement disparu, hein. Il faudrait voir dans quelle mesure ces gens-là lui sont restés fidèles ou se sont abstenus. Là, on est sur des résultats électoraux de demi-mandat qui ont des dynamiques un petit peu différentes. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, la participation et la mobilisation électorale pour une présidentielle et pour des élections de mi-mandat. Mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des électeurs aisés qui votaient traditionnellement pour la droite classique et qui se tournent de plus en plus, ou en tout cas qui se sont tournés depuis un certain temps déjà, vers le parti de Milei en délaissant la droite classique, qui a du coup été plus ou moins obligé de s'unir avec lui. Là, aux dernières élections législatives, ce qui était très frappant, c'est que la Libertad Avanza, le parti d'extrême droite de Milei, était allié avec le Propuesta Republicana, le parti de la droite classique, qui faisait liste commune.
Je relève juste que vous avez parlé d'anarcho-capitalisme, et c'est un terme que les anarchistes historiques conspuent et détestent, et donc on aura l'occasion d'en parler, de peut-être préciser ce que c'est que le milléisme aujourd'hui. C'est très intéressant, je trouve, d'entrer dans ces détails-là et de dire aussi que c'est Milei qui s'auto-proclame peut-être anarcho-capitaliste. En tout cas, cet électorat des classes plus aisées, y compris dans les quartiers chics de Buenos Aires, aujourd'hui c'est intéressant de voir comment cet électorat a basculé, qui trouve donc plus intéressant que prévu les mesures économiques prises par Javier Milei, leurs effets immédiats, baisse de l'inflation notamment, on va y revenir. Et cette euphorie du voyage alors, parce que on entend beaucoup dans les analyses que tous ceux qui peuvent voyager, ce sont ceux qui se sont mis à voter pour le parti de Milei ces derniers temps.
Oui, alors ça c'est lié à l'évolution du taux de change du peso argentin vis-à-vis du dollar. Le peso est très fort, voire même surévalué selon certains analystes économiques, ce qui a deux effets en quelque sorte symétriques. L'Argentine est un pays extrêmement cher aujourd'hui pour les Argentins eux-mêmes, mais aussi pour les touristes étrangers. Donc finalement, le tourisme en Argentine ne se porte pas très bien. Mais à l'inverse, pour les Argentins qui ont les moyens de se payer un billet d'avion, le coût de la vie dans les pays européens notamment est relativement tolérable par rapport à ce qui était le cas il y a un ou deux ans.
Il paraît que c'était la même situation d'ailleurs sous Carlos Menem, où un peso équivalait à un dollar. C'était juste avant la gravissime crise de 2001, mais il y avait beaucoup d'Argentins qui pouvaient voyager à l'étranger. Alors, ce ne sont pas les seuls aujourd'hui, ceux qui peuvent voyager, bien sûr, à voter pour Javier Milei. Il est arrivé en tête, son parti en tout cas, dans 16 des 24 provinces d'Argentine.
Il est venu ici le 25 mai, à Cordoba, et je l'avais rencontré à ce moment-là. Il avait fait un discours, comme d'habitude, excellent. J'en avais la chair de poule. Je pense que Milei, c'est une personne hors du commun. Parce que c'est pas un politicien comme les autres. C'est pas un politicien qui va te faire miroiter des jours meilleurs ou qui va en faire des tonnes avec enthousiasme et dire des tas de choses positives. Il peut paraître choquant, mais moi je préfère un politicien choquant qu'un autre qui me ment pour gagner.
Une électrice de Javier Milei interrogée par la chaîne Public Sénat lors d'un documentaire Javier Milei, le président à la tronçonneuse diffusé cette année. C'est un vote assez fier, David Coppello, que le vote pour Javier Milei, sur lequel ne semble pas avoir de prise. Alors, les outrances verbales, on entend bien cette électrice dire que finalement, pour elle, c'est un peu le cadet de ses soucis, mais les affaires de corruption également. En 2023, Javier Milei et ses soutiens avaient été élus aussi sur leur promesse de jeter dehors la classe corrompue. Est-ce que c'est Javier Milei, par exemple, qui a demandé au candidat de son parti dans la province de Buenos Aires, José Luis Espert, pris la main dans le sac après avoir reçu une importante somme d'argent de la part d'un entrepreneur impliqué dans le trafic de drogue. Est-ce que c'est Javier Milei qui lui a demandé de se retirer de ses élections, sous prétexte qu'il faut vraiment être totalement vierge de tout soupçon, de toute accusation en la matière?
Alors, c'est probablement Javier Milei qui lui a demandé de se retirer, mais au bout d'un certain nombre de semaines et d'un scandale qui enflait et enflait et enflait avec le temps. Donc, disons que Milei n'a pas la probité des membres de son administration comme priorité dans l'exercice concret de son mandat, ça c'est clair. Les affaires de corruption assez rocambolesques, hein, qui se sont succédées tout au long de l'année 2025 n'ont effectivement pas eu l'effet, en tout cas massif, qu'elles auraient pu avoir sur les résultats électoraux. On ne sait pas en réalité, hein, puisque si elle n'avait pas eu lieu, peut-être que les scores du milléisme auraient été encore plus élevés lors de ces élections. Mais c'est assez frappant effectivement de constater, et surprenant de constater que cette corruption, donc, qui concerne par exemple ce candidat tête de liste dans la province de Buenos Aires, qui a
la
été retirée,
la plus peuplée du pays,
la population de cette province équivaut à environ 40% de la population argentine, a été retirée du ticket milléiste, mais son visage apparaissait encore sur les bulletins de vote. Et pourtant, même dans cette province, Javier Milei et son parti l'ont remporté face aux péronistes, alors que c'est un bastion du péronisme. Il y a d'autres affaires de corruption tout aussi rocambolesque, hein, la promotion d'une crypto-monnaie qui a été retirée quelques minutes après sa mise en vente, ce qui a fait perdre des millions de dollars à des dizaines de milliers de personnes.
C'était en février, Javier Milei appelle sur son compte X les Argentins à acheter massivement la crypto-monnaie Libra, qui est censée aider au développement de petites entreprises. Des milliers de personnes investissent et le cours de la crypto-monnaie s'envole, sauf que les responsables de Libra la revendent et le cours s'effondre. 9 personnes ont gagné 87 millions de dollars et les 44 millions l'autre ont tout perdu. Où en est l'enquête? Parce que la justice argentine a diligenté une enquête et le gouvernement est censé, enfin, a promis de tenir compte des résultats de cette enquête. On en est où?
Alors, cette enquête, elle a deux volets. Elle a un volet qui se passe aux États-Unis en réalité, puisque c'est une affaire qui en fait est transnationale, qui suit son cours avec les temporalités de la justice. Et puis elle a un volet argentin qui est non seulement judiciaire mais aussi parlementaire, puisque une commission d'enquête parlementaire a été lancée par l'opposition sur ce sujet de ce qu'on appelle le CryptoGate ou le LibraGate. Et là, ce qui est intéressant, c'est la capacité qu'a eu le gouvernement déjà jusqu'ici, alors qu'il était en minorité, de bloquer le travail de cette commission parlementaire. Donc il est fort probable que, vu le renversement, des tendances au Parlement, cette commission ne donne pas grand-chose dans les mois qui viennent. Mais bon, c'est une affaire qui peut ressurgir dans plusieurs années.
Même si là, encore récemment, l'exécutif a dit qu'il fallait absolument savoir s'il y a eu arnaque et conduite inappropriée de la part d'un membre du gouvernement, y compris du président, faisant montre, en tout cas dans cette déclaration-là, d'une certaine indépendance, ce qui était intéressant.
Oui, oui. C'est vrai, alors ça n'empêche pas de reconnaître, si vous voulez, rhétoriquement et verbalement un certain nombre de choses. Le fait est que le règlement de cette affaire n'avance pas, hein, concrètement. Ce qui est intéressant et qui me permet de rebondir sur le témoignage qu'on entendait juste avant d'une électrice qui disait « voilà, je préfère voter pour Milei qui insulte tout le monde plutôt que quelqu'un qui ment pour gagner les élections », c'est une des toutes dernières actualités argentines qui renvoie à l'évaluation des chiffres de l'inflation. Il y aurait visiblement eu quelques manipulations des chiffres de l'inflation ces derniers mois pour essayer de la sous-évaluer un petit peu, notamment en surévaluant le tourisme en Argentine. Et donc, il y a tout un jeu ici, finalement très classique dans la politique argentine, où les gouvernements successifs essayent de maquiller un petit peu les chiffres de l'inflation pour s'en sortir un petit peu mieux. Donc finalement, on a des pratiques politiques politicienne, hein, pour utiliser le terme d'accusation du débat public, qui était présente dans ce que Milei appelait la caste et qu'on retrouve parfaitement dans ses pratiques politiques, les pratiques politiques de son gouvernement, qui par ailleurs est constitué d'une très grande proportion de vieux routiers de la politique qui ont exercé par le passé dans des postes ministériels, etc., etc.
Parce qu'officiellement, l'inflation, elle est aujourd'hui à 38%. C'est ça, on ne sait pas si elle est sous-évaluée, surévaluée, mais en tout cas, ce sont les chiffres officiels. La pauvreté à 32%, ce sont des indicateurs quand même qui se sont améliorés depuis l'élection de Javier Milei il y a 2 ans. Il faut savoir le reconnaître, mais simplement, il faut aussi savoir le lire. Est-ce que l'économie argentine est sauvée, David Copello?
Alors, espérons-le pour les Argentins, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de doutes, disons, sur la stabilité future de ce qui s'est produit ces 2 dernières années. Donc effectivement, on est passé d'une inflation au moment de l'élection de Milei qui tournait autour de 250% sur un an. Au mois de décembre 2023, où Milei a pris le pouvoir, l'inflation sur le mois était de 25%, ce qui était colossal. Et on continue à parler aujourd'hui de l'inflation en Argentine en se basant sur l'inflation mensuelle. Et aujourd'hui, elle alterne entre 2 et 3% en gros tous les mois. Donc effectivement, elle a très fortement baissé, ce qui est directement lié à la politique d'austérité mise en œuvre par le gouvernement, qui est radicale. Hein. Les dépenses publiques ont baissé de quelque chose comme 30% depuis l'arrivée au pouvoir de Milei, ce qui est lié aussi à sa politique sur le taux de change. Milei refuse de dévaluer la monnaie argentine, ce qui est lié au fait qu'elle est surévaluée, qu'on commentait tout à l'heure. Et donc tout ça joue en faveur d'une baisse de l'inflation qui elle-même se répercute sur une baisse de la pauvreté, puisque l'inflation, quand elle est très forte, a un effet direct sur l'appauvrissement de la population. Donc les deux choses vont de pair, mais dans une situation qui reste relativement précaire. On a vu notamment une série de mouvements économico-politiques au niveau international juste avant les élections, où finalement les investisseurs commençaient à avoir de moins en moins confiance dans le peso, à acheter de plus en plus de dollars, ce qui impliquait, pour maintenir la stabilité financière, que la Banque centrale argentine mettent du dollar sur le marché et donc dépensent ces dollars. Or, les réserves étaient en train de s'épuiser, voire étaient devenues inexistantes, ce qui a supposé une aide, une intervention directe des États-Unis qui a acheté du peso, mis du dollar dans l'économie argentine, ce qui a permis de restabiliser en quelque sorte ce qui était en train de ressembler à une crise du taux de change. Et c'est grâce à ça, en grande partie, que Milei a pu arriver aux élections du 26 octobre avec une situation financière, enfin économique et financière, certes précaire, mais relativement stable, alors qu'on s'attendait presque à une catastrophe financière dans les semaines qui ont précédé.
Précaire aussi parce que l'aide américaine n'est pas totalement acquise, qu'elle est souvent qu'elle dépend de plein de conditions que Donald Trump impose au fur et à mesure, donc c'est quelque chose d'assez fragile. Pour autant, David Coppello, vous disiez tout à l'heure que Javier Milei, depuis qu'il est président, comme il n'avait pas de majorité au Parlement, il a à chaque fois repris les budgets de ses prédécesseurs, il les a fait voter tel quel quasiment. Alors comment expliquer cette cure d'austérité ? Vous parlez de 30% de baisse des dépenses de l'État.
Oui, alors c'est une situation très particulière où en fait il n'a pas fait revoter les budgets, simplement aucun budget n'a été voté. Or, comme le gouvernement avait le gouvernement avait pour objectif principal de réduire les dépenses, simplement il a repris le budget et n'a pas dépensé les sommes qui étaient prévues dans ce budget. Donc typiquement, c'est très net sur le budget de la construction publique, des travaux publics, la réparation des routes, etc. Sur la première année de mandat de Milei en 2024, c'est quelque chose comme 10 ou 20% du budget consacré à de cette ligne de financement qui a été dépensé. Donc finalement, quand on décide de ne pas dépenser l'argent qui est prévu dans le budget, il semble qu'on peut le faire en Argentine, en tout cas pendant un certain temps, sans passer par la voie parlementaire.
Donc ça concerne les infrastructures, ça c'est quelque chose de presque visible, les travaux à l'arrêt en Argentine, mais ça concerne aussi bien sûr la vie de tous les jours.
Il a coupé toutes les subventions. Du coup, les services ont augmenté de 200%, voire plus pour certains. Je suis la première, excusez-moi, la première diplômée de la famille. Alors ça me rend malade. Mais on a déjà connu ça, ce n'est pas nouveau. J'ai 71 ans, j'en ai vu de toutes les couleurs. Sauf que cette fois, on en parlait justement avec Lucia. Je ne vois pas d'issue. Milei va attendre que les étudiants s'épuisent.
Un témoignage recueilli par une équipe d'Arte pour le documentaire L'Argentine dans la tourmente, Milei, le grand sauveur, avec un point d'interrogation. David Coppello, dans le même temps, est-ce que Javier Milei a augmenté l'aide sociale universelle? Parce que ça semblait être une chose qui pointait assez récemment quand on s'est aperçu qu'en réalité, beaucoup de gens aujourd'hui attendaient des retraites un peu plus importantes, qui avaient du mal aujourd'hui à vivre de ce qu'ils reçoivent, des aides qu'ils reçoivent.
Alors, clairement, les perdants de la politique économique de Milei, il y a des gagnants et il y a des perdants. Les perdants sont les retraités et les fonctionnaires, ou plus largement les gens qui travaillent dans la fonction publique, qui ont vu leur salaire non réactualisé en fonction de l'inflation, etc., etc. Mais il y a un secteur où c'est intéressant, si vous voulez, la politique, quelque part, intelligente qui a été menée par le gouvernement, qui a consisté à revaloriser un certain nombre de prestations sociales, et notamment ce qu'on appelle la Asignación Universal por Hijo, qui est l'équivalent des allocations familiales, si vous voulez, qui est la prestation qui a été le plus revalorisée, bien au-dessus du niveau de l'inflation. Ce qui a permis, dans une certaine mesure, à un certain nombre de foyers, soit de sortir de la pauvreté, soit de se maintenir juste au-dessus du niveau de pauvreté. Donc voilà, il y a une manière quand même, disons, dans cette politique ultralibérale de Milei, d'essayer de ménager un certain secteur de la population dans lequel il voit aussi une partie de son électorat de base.
Donc il y a des programmes que le candidat, ou des mesures que le candidat promettait de prendre, que le président n'a pas, sur lequel le président n'est pas allé vraiment jusqu'au bout.
Ah oui, il y en a un très grand nombre. Le point principal du programme de Milei en 2023, c'était la dollarisation de l'économie argentine, donc la suppression du peso argentin, et la fermeture de la banque centrale. Aucune de ces deux choses n'ont eu lieu depuis. Ce qui s'est produit, c'est une politique qui est ultralibérale, mais qui l'est d'une manière beaucoup plus orthodoxe. Alors, peut-être qu'on reviendra dessus. Milei se définit comme un anarcho-capitaliste, comme un libertarien, etc., etc. Bon, le fait est que probablement cette inspiration existe chez lui, mais que sa pratique du pouvoir, sa pratique de la gestion publique, est celle d'un ultra-libéral beaucoup plus classique, beaucoup plus néoclassique même, pour utiliser la terminologie des économistes. Donc coupe budgétaire, mais pas restructuration du fonctionnement de l'État, du moins du point de vue de la matrice économique.
Alors sans doute pourra-t-il aller un peu plus loin néanmoins dans son programme, maintenant qu'il a réuni autour de lui davantage de forces de droite au Parlement. Que peut la gauche aujourd'hui en Argentine, gauche péroniste, kirchneriste, les détails, enfin dans le détail c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui les forces issues du péronisme réunies sous l'étiquette de Fuerza Patria? Est-ce qu'elles peuvent s'allier? Qu'est-ce qu'il reste, par exemple, des formations qui se réclament du marxisme? Est-ce qu'il y a aussi à gauche des possibilités de faire un peu plus bloc que lors de ces deux précédentes années?
Alors, des forces qui se réclament du marxisme, il y a quelques partis trotskistes qui ont des députés systématiquement à la Chambre des députés. Hein, là, je crois qu'ils en ont quatre. Ça reste extrêmement minoritaire et c'est pas un groupe qui va s'allier avec les péronistes qui vont du centre-gauche à la droite, en réalité. Et je dirais que, en réalité, ce qu'on a observé au cours des deux dernières années, c'est la capacité du péronisme à se maintenir relativement uni, en tout cas au moment des échéances électorales et en dépit des querelles internes extrêmement forte entre les différents acteurs. Le problème, c'est que cette unité entre des groupes politiques qui certes sont péronistes mais qui sont très divers, cette unité reste très floue et n'est pas... disons que ça manque d'un lien, ça manque d'une version programmatique renouvelée qui permettrait de faire appel aux électeurs de manière peut-être plus séduisante.
À part non à Milei, il n'y a pas vraiment de programme aujourd'hui à gauche en Argentine.
Exactement, c'est-à-dire que par exemple la campagne électorale des élections de mi-mandat a été... pas intégralement, mais très largement structuré autour du non à Milei, en partie parce que les acteurs de l'opposition pensaient que, quelque part, le résultat électoral et le gouvernement allaient tomber comme un fruit mûr, notamment parce qu'un certain nombre de résultats lors d'élections partielles avaient été très encourageants. Or, il s'est produit l'inverse de ce qu'on attendait, hein, et c'est quand même très frappant. Lors de l'élection de la province de Buenos Aires en septembre de cette année, les péronistes, donc l'opposition de centre-gauche, avaient 14 points d'avance sur le parti de Milei. Un mois et demi plus tard, ils avaient, dans la même province, score quasiment égal, et ils avaient même perdu à quelques milliers de voix près. Donc l'écart a été sensiblement réduit, et la stratégie qui avait été adoptée par l'opposition... n'a de fait pas fonctionné lors de ces élections.
Une opposition qui en effet aujourd'hui manque un peu de programme, qui par ailleurs, alors vous dites qu'elle sait se montrer unie lors des élections, c'est vrai que là il y avait quand même quelques divisions entre ceux qui soutiennent toujours Cristina Kirchner alors que son procès s'est ouvert récemment pour les affaires de corruption dans lesquelles elle est impliquée sur la période notamment où elle était à la tête de l'Argentine avec 85 autres personnes, je crois, des affaires de pot de vin. Et puis il y a ceux qui se retrouvent plutôt auprès du gouverneur de la province de Buenos Aires, bastion du péronisme, etc. Alors, une gauche quand même assez faible face à un Javier Milei qui, lui, ne cesse de diligenter toutes ses attaques, y compris verbales, contre le kirchnerisme.
Les kirchneristes avaient entre 20 et 23 ministères. Nous, nous n'en avons plus que 8. Cela nous a obligés, bien sûr, à fermer les officines dédiées à la persécution idéologique. On avait l'Institut national contre les discriminations, ou le ministère de la femme. Clairement, ils ont montré qu'ils ne servaient à rien. En fait, ils n'étaient uniquement utilisés que pour établir des listes noires et chasser les opposants. C'était la culture de la dénonciation à outrance.
Milei, Javier Milei sur les ministères et contre le kirchnerisme dans le documentaire Public Sénat, le président à la tronçonneuse. De quoi parle-t-il en fait quand il parle de la persécution idéologique, des campagnes de harcèlement diligentées d'après lui par les candidats kirchneristes ou péronistes? Lui, Javier Milei, n'est pas du tout concerné par ce genre de pratiques?
Ah non, alors ça, évidemment que si, on pourrait même lui retourner le reproche. Hein. Disons que depuis l'arrivée au pouvoir de Milei, il y a tout un discours et des formes de campagnes de trolling en ligne sur les réseaux sociaux notamment qui se sont multipliées. Il y a une politique extrêmement agressive qui vise des journalistes ou des opposants de manière individuelle, mais il y a aussi un discours plus général de critique, qui est plus qu'une critique, hein, qui est une forme de mépris vis-à-vis du Parlement, qui a été qualifié de trou à rat par Milei. une critique des journalistes. Hein, le slogan « On ne hait pas assez les journalistes » a été extrêmement diffusé aussi dans, disons, l'entourage notamment numérique du milléisme, qui par ailleurs propage, enfin se propage sur toute une série de canaux politiques très différents, qui va de X à YouTube, avec toute une frange aussi du milléisme. Il y a différentes franges à l'intérieur du milléisme, hein, mais il y a une frange très agressive sur les réseaux sociaux, masculiniste, qui renvoie à des codes de l'alt-right un peu états-unienne, de manière très marquée.
Les Forces du Ciel, c'est ça, c'est le groupe auquel vous faites référence, qui a été créé par un proche de Javier Milei autour d'un groupe de youtubeurs de l'extrême droite argentine.
Tout à fait. La Fuerza del Cielo, les Forces du Ciel, c'est un groupe qui a été créé par notamment Santiago Caput, qui est un consultant qui travaille pour Milei, qui est un de ses principaux conseillers, qui a un statut très bizarre.
Il n'est pas au gouvernement,
il est consultant, donc il facture ses prestations, mais c'est une des figures principales de l'État aujourd'hui. Et donc Santiago Caputo, associé avec une autre figure très importante sur YouTube, en l'occurrence, qui s'appelle El Gordo Dan, enfin qu'on surnomme El Gordo Dan, le gros Dan, qui a une émission YouTube extrêmement suivie qui s'appelle La Misse, hein, qui est une espèce d'émission très longue, de logorée, d'insultes, d'obscénités scatologiques, d'insultes vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis des féministes, etc., où se déploie tout un discours qu'on connaît très bien, hein, qu'on peut qualifier d'anti-wokisme, ou que eux-mêmes définissent comme une forme de bataille culturelle contre ce qu'ils appellent aussi le marxisme culturel. Donc tout ça est très présent dans le milléisme et renvoie à la dimension plus identitaire, culturelle, sociétale de l'activité de son gouvernement, qui ne se traduit pas toujours par une transformation des politiques publiques. Certes, il y a des fermetures d'un certain nombre d'institutions, celles qui étaient mentionnées dans le discours de Milei juste avant par exemple, mais ça renvoie plus largement à la promotion d'un certain type de discours sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, etc. etc.
Diversité, inclusion, équité, immigration, avortement, écologisme ou idéologie du genre sont parmi d'autres les têtes d'une même créature qui vise à justifier l'expansion de l'État par l'appropriation et le détournement de nobles causes. C'est le virus mental de l'idéologie woke, le cancer qu'il faut extirper. Merci beaucoup et vive la liberté, bordel !
L'un de ses slogans, vive la liberté, bordel, Javier Milei au forum de Davos en janvier dernier. Javier Milei contre l'avortement, contre les femmes, contre les homosexuels. Est-ce qu'il a modéré ses discours, David Coppello? Est-ce que c'est possible de tenir ses propos indéfiniment dans un pays comme l'Argentine, un pays précurseur sur ces questions?
Écoutez, ça c'est extrêmement paradoxal, hein, effectivement. Alors je ne sais pas si l'Argentine est précurseuse sur ces questions. L'Argentine a été un des pays dans lequel le mouvement féministe a été très fort au cours des 10 dernières années, et l'Argentine a légiféré sur l'avortement en l'autorisant en 2020.
Ce qui est quand même... Sur les personnes trans aussi, c'est surtout...
Effectivement, oui, sur les personnes trans. Alors il y a une chronologie des droits des minorités de genre qui est assez différente de celle qu'on connaît dans les pays européens, on va dire. Donc sur les droits des personnes trans ont été très développés au début des années 2010 notamment, et la question de l'avortement est venue plus tard en 2020. Donc bon, effectivement, l'Argentine est quand même un pays central dans toutes ces réflexions au cours des dernières années. Par ailleurs, l'avortement est extrêmement approuvé par la population. Et puis, on a ce contraste d'un président qui est contre l'avortement, mais contre toute une série de choses qu'on peut associer à ce que eux associent le wokisme. Alors, je ne dirais pas que ce discours a été modéré du tout. Il n'y a pas eu de conséquences, disons, en termes législatifs, du fait de la minorité législative de Milei au Parlement. Mais tout ce qu'il a pu faire sans passer par le Parlement, il l'a fait. Fermeture d'un certain nombre d'administrations par décret, il l'a fait. Transformation du discours de l'Argentine à l'international, il l'a fait. L'Argentine s'est quand même retirée de l'Organisation mondiale de la santé cette année. L'Argentine s'est retirée de la COP30, enfin, n'a pas participé à la COP30. Donc il y a un certain nombre de conséquences.
N'est plus candidate au BRICS non plus.
Voilà, l'Argentine a, enfin, il y a un certain nombre de conséquences très concrètes de ce discours de réactionnaire en réalité du gouvernement milléiste.
Oui, les BRICS, c'est encore autre chose, mais c'est l'idée de dire qu'ils ne se sentent pas appartenir au Sud global, comme on dit, ou au Sud au pluriel. Lui est plutôt proche des Occidents, mais c'est pareil, il faudrait mettre beaucoup de nuances. Il est très fâché aujourd'hui avec le gouvernement espagnol, plus proche par ailleurs du gouvernement israélien, ou en soutien beaucoup aussi à l'Ukraine. Tout ça est très différent et c'est difficile de saisir exactement quelle est son idéologie ou ses idées en la matière. peut-être un mot, David Coppello, sur les forces syndicales. En Argentine, la CGT d'Argentine, par exemple, elle est historiquement très forte. Elle a contribué à la chute du gouvernement dictatorial de Juan Carlos Onganía en 69, comme le rappelait avant-hier le sociologue Sylvain Pablo Rotelli dans un article. La CGT, elle compte ou comptait encore il y a peu 2,5 millions d'adhérents, 30 000 délégués syndicaux. Comment est-ce qu'elle réagit à la dérégulation, aux coupes budgétaires? Est-ce qu'elle a organisé des mobilisations ou ces mobilisations ne sont plus guère possibles depuis que Javier Milei a pris, dès le mois de décembre 2023, des mesures pour limiter le droit de grève et la liberté de manifester? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, on peut probablement dire que la CGT n'a plus la force qu'elle avait dans les années 60-70 du fait de la restructuration totale du marché du travail en Argentine. Je disais tout à l'heure, 40% de la population travaille dans l'économie informelle et donc les liens avec les structures syndicales sont de ce fait assez faibles. Donc la CGT et les autres syndicats représentent une partie de l'emploi informel, ce qui limite un peu leur capacité d'action. La deuxième chose, c'est que la CGT a eu une position assez attentiste, dialoguiste, modérée. Il n'y a pas eu d'appel à la grève illimitée dans l'Argentine des deux dernières années, probablement aussi parce que les syndicats anticipaient qu'ils n'avaient pas la capacité de tenir ce type de mobilisation sociale.
Il y a eu trois reprises des grandes manifestations, mais la CGT a plutôt été mise devant le fait accompli par la base qui est allée dans la rue plutôt qu'elle n'a appelé elle-même à manifester. Est-ce que ces mesures prises par Javier Milei dès le mois de décembre 2023 pour limiter le droit de grève et la liberté de manifester, ce nouveau protocole de maintien de l'ordre qu'il a mis en place, est-ce que ça a eu des effets concrets? Est-ce que ces mesures-là ont été réellement appliquées ou on peut quand même toujours manifester librement en Argentine?
Alors, on peut toujours manifester librement et Milei n'a pas atteint les premiers objectifs qu'il s'était fixés au moment où il venait juste d'arriver au pouvoir, qui était de délimiter les rassemblements publics à 4 ou 5 personnes, enfin des choses tout à fait rocambolesques encore une fois. En revanche, effectivement, le protocole d'usage des armes à feu par les forces de police, le protocole de gestion des foules au moment des manifestations, qui est très restrictif et très répressif, est mis en œuvre. Et donc, on a vu une recrudescence des violences policières en manifestation. Il y a un certain nombre de gens qui ont été éborgnés, etc. Et ça émaille un peu l'actualité politique argentine. On parle d'une spectacularisation de la répression au cours des deux dernières années.
Donc, il y a une répression, elle existe, mais peut-être qu'elle est moins massive que ce que lui a tenté de dire au début, quand il arrive. En fait, il voulait mettre tout le monde au pas quand il est arrivé. C'était ça son discours.
Oui, c'est ça. Et bon, il n'est pas exclu qu'il reprenne ce discours et qu'il essaye de le mettre plus à exécution du fait de cette nouvelle marge de manœuvre parlementaire qu'il a maintenant, puisque ces projets-là ont échoué parce qu'il a essayé de passer en France au Parlement qui ne le lui avait pas permis à cette époque-là.
Peut-être un tout petit mot avant de conclure cette première partie. Dans un article paru dans La Vie des Idées, vous trouviez presque plus intéressant de se concentrer non pas tant sur la substance des réformes menées par le gouvernement argentin que sur les mécaniques de fonctionnement politique dans lesquelles elles s'inscrivent, mécaniques que vous avez bien décrites depuis le début de cette émission. Pourquoi et surtout, est-ce que cette nouvelle donne suite aux élections législatives et de nature à changer la façon dont vous-même l'abordez?
Oui, alors quand je parlais des mécaniques de fonctionnement de ce gouvernement que je trouvais très baroque, je me référais notamment au rôle joué par un certain nombre d'acteurs très peu institutionnalisés dans le fonctionnement des institutions. Donc on a mentionné Santiago Caputo, le consultant qui est central dans le gouvernement sans en faire partie, qui est une des figures centrales de cette informalité mileiste. Une autre des figures, c'est la sœur de Javier Milei, Karina Milei, qui, bon, un peu sortie de nulle part, a été désignée secrétaire générale de la présidence et dont les attributions, dont le pouvoir réel dépasse assez largement les attributions traditionnelles. Donc il y a un certain nombre de choses informelles qui participent d'une forme de désinstitutionnalisation de l'exercice du pouvoir. Il y a des formes de népotisme aussi qui se sont mises en place autour de Milei, autour du fonctionnement de son gouvernement. Ce qui serait intéressant de voir dans les prochains mois, c'est dans quelle mesure cette gestion très iconoclaste même du fonctionnement des institutions n'était pas liée aussi à la faiblesse parlementaire du gouvernement qui le poussait en quelque sorte à agir de manière détournée. Est-ce que maintenant le fait qu'il soit plus institutionnalisé même au niveau des chambres parlementaires ne va pas le pousser à aller vers une forme de normalisation institutionnelle ou pas? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder attentivement dans les prochains mois.
Dans cette série qu'on consacre à Culture Monde, aux droites au pluriel, au pouvoir en Amérique latine, on a parlé à la fois de celles qui nourrissent et entretiennent une nostalgie de la dictature. Alors au Chili, la fin de la dictature est encore récente et en effet ce discours-là est très présent aujourd'hui dans la rhétorique de l'extrême droite au Chili, alors qu'en Bolivie ce n'est pas du tout le cas, de par aussi l'histoire de certains candidats de la droite aux élections, notamment Rodrigo Paz dont le père lui-même était en exil lors de la dictature. Ce n'est pas du tout la même droite d'ailleurs. En Argentine, c'est aussi passionnant de voir à quel point Javier Milei aussi met en en cause cette mémoire de la dictature. On en parle juste après ce trio argentin féminin, Femina et sa chanson Résiste. Argentin Femina, et si vous allez l'écouter en longueur sur YouTube notamment, vous entendrez une apparition vocale d'Iggy Pop. Cette chanson est sortie en 2019. C'est le dernier épisode de notre série sur la droite qui revient en force en Amérique latine sur un positionnement radical en rupture avec les gouvernements de gauche précédents. Nous parlons aujourd'hui de l'Argentine avec David Copello, où l'ultralibéralisme semble faire recette, à en croire en tout cas les résultats des dernières élections législatives, où le parti de Javier Milei a engranger davantage de voix que prévu. En Argentine, où la mémoire de la dictature, par ailleurs, vacille sous les coups du gouvernement.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Indépendamment du débat sur le nombre de personnes portées disparues, ce qu'on est en devoir de faire pour dormir en paix, c'est de rendre compte de toute la vérité. La vérité totale, comme nous disons. Pour les péronistes, dès que ce ne sont pas eux qui gouvernent, c'est la dictature. Peu importe qui c'est. Aujourd'hui, c'est Milei, hier, c'était Macri. Pour eux, tout est dictature.
Manuel Adorni, porte-parole présidentiel, extrait d'un récent documentaire sur Public Sénat. Javier Milei, le président à la tronçonneuse, rendre compte de toute la vérité totale, comme dit l'équipe au pouvoir en Argentine aujourd'hui. C'est notamment de parler aussi des victimes des militants de gauche sous la dictature, comme si les historiens ne le faisaient pas déjà, et de les mettre sur le même plan que tous les morts et disparus, tués, torturés ou enlevés par le régime de l'époque, le terrorisme d'État. Bonjour Nadia Tahir.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en études hispano-américaines à l'Université de Caen-Normandie, membre de l'équipe Airlis. D'abord, de façon très pragmatique, les politiques mémorielles, les lieux de mémoire ou les associations qui les portent, ont-ils et elles réussi à préserver leur budget depuis l'accession de Javier Milei à la présidence ?
Alors absolument pas, puisque dans la dynamique de ce que vous avez évoqué avec David Copello, les coupes budgétaires ont été à tous les niveaux. Et comme il l'a évoqué, en fait, tout simplement, même s'il y a un renouvellement de budget, les dépenses ne sont pas faites. Donc aujourd'hui, un lieu assez symbolique, c'est l'ESMA, donc l'école de mécanique de la marine, qui était un centre clandestin, le plus gros centre clandestin de détention pendant la dictature de 1976-83, qui est devenu en 2015 un musée. Et qui est même devenu en 2023 patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, bien aujourd'hui fonctionne à minima, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un à deux jours par semaine quand ils peuvent. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de financement.
Ce centre où 5000 personnes sont passées, oui, pendant les dictatures, que l'on torturait, violait, beaucoup sont mortes par ailleurs. Donc cet espace-là, aujourd'hui, il est ouvert de temps en temps, quand on peut, avec quelques personnes qui sont
encore là, ouais. qui ont un salaire absolument dérisoire. Donc en fait, la politique qui a été pratiquée sur toute la gestion de ce passé dictatorial, notamment à travers ces espaces ou musées pour la mémoire, mais aussi à travers d'autres institutions ou d'autres organismes comme la CONAVI, qui avait en charge et qui a officiellement encore en charge tout ce qui est le travail de récupération d'identité de ces enfants qui ont été enlevés pendant la dictature, ce qu'on appelle communément los nietos, que cherchent ces grands-mères de la place de Mai. En fait, ça existe formellement, c'est-à-dire que l'institution n'a pas disparu, mais il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc forcément, le travail ne se fait plus.
Elle subsiste via le bénévolat et les bonnes volontés.
Voilà, c'est le cas par exemple des grands-mères de la place de Mai qui, depuis maintenant 2 ans, ont lancé des campagnes de demande de financement, chose qu'elles n'avaient jamais fait dans leur histoire en fait.
Et on sait même, si ça marche, si elles continuent à rassembler des...
Elles continuent à rassembler et de fait, je dirais que ça marche puisqu'on continue à trouver des nietos et des nietas pendant l'époque de Milei, donc pendant les 2 ans de Milei, 3 ou 4 personnes, je ne veux pas me tromper, ont retrouvé leur identité. Donc c'est une démarche qui se poursuit, mais forcément qui se poursuit au ralenti, qui ne vaut pas au rythme auquel elle allait précédemment et pendant des politiques publiques beaucoup plus favorables et avec des financements pour un fonctionnement régulier, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ça se poursuit, mais pas comme ça devrait se poursuivre.
Est-ce que sur ces questions-là, c'est plutôt lui, Javier Milei, ou sa vice-présidente Victoria Villarruel qui est à la manœuvre ?
Alors, pendant la campagne, on avait le sentiment qu'il y avait une sorte un peu de division, effectivement, du travail, si je puis me permettre. Villarruel, effectivement, donc sa vice-présidente, c'était la militante, hein, idéologue, si vous voulez, puisque elle, c'est une militante depuis 2005, avec la création d'une association de défense, notamment des militaires qui étaient pour lesquels il y avait des procédures judiciaires et qui étaient condamnés. C'est elle qui revendiquait les autres victimes auxquelles vous avez fait référence, c'est-à-dire celles des terroristes, comme il les nomme, c'est-à-dire les organisations de gauche, avec des calcul un peu curieux, un peu singulier. Et donc, c'était elle la militante. Milei, lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il reprenait plutôt le discours, effectivement, pour, si vous voulez, pardonnez-moi l'expression, taper sur l'opposition. Donc, Kirchner et le gouvernement d'Alberto Fernandez, kirchneriste à l'époque. L'idée, c'était que ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien. Et pour reprendre ce que vous disiez au tout début, en plus, on vous ment, notamment avec ce fameux nombre des 30 000 disparus, qui ne sont pas 30 000, qui sont en fait 8 960, comme le disait le rapport de la CONADEP. Enfin, on jouait sur ces leviers de vérité, on vous a menti, et en plus, ça coûte de l'argent, donc on vous a encore menti. Vous voyez, donc ça, c'était plutôt la casquette de Milei, si vous voulez, et l'idéologie à Villarruel. Depuis deux ans, les choses ont un peu évolué. Donc, le 24 mars en Argentine, qui est la date du coup d'État, c'est la date commémorative, celle où se mobilisent les organisations de droits humains et de victimes depuis la fin de la dictature. Et par la suite, ensuite, le gouvernement, effectivement, de Néstor Kirchner, de son épouse Cristina Fernández Kirchner et ensuite d'Alberto Fernández. Pendant les deux 24 mars qu'il y a eu, donc depuis l'arrivée de Milei, on a vu, en fait, l'action du gouvernement, c'était de publier des vidéos dans lesquelles il y avait une volonté de revendiquer ses autres victimes, donc pour reprendre le discours de Villarruel. Et dans une deuxième vidéo, celle de cette année, 2025, avec un idéologue, là aussi, qui se dit historien, écrivain, Agustín Laje, il y avait tout un discours, effectivement, de là, on va encore vous dire la vérité. Donc on était sur cette construction-là qui prenait du poids. Maintenant, il y a des signes très récents, peut-être un sur lequel vous voulez qu'on parle un petit peu, c'est la future nomination, enfin la nomination qui va être effective la semaine prochaine, d'un nouveau ministre de la Défense, qui Carlos Presti, qui lui est un militaire.
Ancien chef d'état-major de l'armée.
Exactement. Et donc, on commence à sentir qu'il y a un glissement qui laisse entendre que finalement, cette répartition du travail n'est peut-être pas aussi marquée. Et surtout, pour finir, en fait, depuis 2 ans, le travail entre Villarruel et Milei ne se fait pas vraiment. Ils sont plutôt brouillés. Donc, on a l'impression que Milei reprend un petit peu dans cette bataille culturelle qu'il évoque. Et vous avez donné un extrait précédemment, effectivement, de son intervention à Davos. On a l'impression qu'il reprend un peu plus ce discours, qu'il se l'approprie beaucoup plus qu'il ne l'avait fait à l'époque de la campagne. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque de la campagne, ils ne le pensaient pas. Je n'irai pas faire de la psychologie. Mais en fait, on est sur vraiment quelque chose qui devient un peu plus structurel, en fait, dans le discours milléiste, qu'il ne pouvait ou ne paraissait l'être à l'époque de la campagne.
Pendant que Javier Milei et sa vice-présidente Bilawel se succèdent pour porter ces discours-là, même si vous dites qu'aujourd'hui, ils sont un peu brouillés, comment la société civile les rappelle à ce qu'elle considère encore ou pas comme un devoir de mémoire? Est-ce qu'en Argentine, on se déplace toujours massivement pour le 24 mars, pour commémorer la fin de la dictature, même si en Amérique latine, c'est toujours la date du coup d'État qui est retenue pour les commémorations? Est-ce que ce mouvement-là est quand même encore massif?
Pour le moment, oui. C'est-à-dire que le 24 mars 2024 et 2025, oui. L'année prochaine, ça va être un moment assez symbolique puisque ce sera les 50 ans du coup d'État, hein, le 24 mars 2026. Faudra voir la mobilisation, mais jusqu'ici, oui, effectivement, le 24 mars est une date très importante, dans laquelle il y a eu de très fortes mobilisations. Maintenant, on peut aussi comprendre que les Argentins se mobilisent pour beaucoup de choses, hein, comme vous l'avez évoqué pendant ces premières 40 minutes d'émission, il y a énormément de chantiers, si je puis me permettre, pour les mouvements sociaux. Donc on ne peut pas mobiliser que sur cette question-là. Mais effectivement, le 24 mars, symboliquement, les Argentins sont dans la rue, dans tout le pays, pour effectivement souligner que le discours de vérité que prône effectivement le gouvernement de Milei n'est pas celui que l'Argentine ou la société argentine prône. Alors ça ne veut pas dire toute la société argentine. Là, c'est difficile effectivement hein, d'évaluer dans quelle mesure, par exemple, ce discours contribue ou pas à ce que les gens votent Milei. J'en suis pas convaincue, j'ai pas d'éléments pour aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, les secteurs qui se sont toujours mobilisés depuis plus de 40 ans, depuis 1983 et même pendant la dictature, continuent à réussir à mobiliser suffisamment de gens sur cette date emblématique du 24 mars. Donc, voilà.
Oui, pardon, une dernière question, Nadia Tahir, pour conclure. Est-ce que Javier Milei a déjà dit qu'il pourrait gracier des figures de la dictature, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent?
Alors, jusqu'ici, lui ne l'a pas dit. Sa vice-présidente le voulait très clairement. C'est quelque chose qu'on avait un peu craint ou suspecté lors du premier 24 mars, justement. Il y avait eu des sortes de rumeurs qui circulaient un peu. Mais comme ça a été dit hein, pendant toute l'émission, jusqu'ici, il n'avait... Enfin, c'était même plus une minorité de blocage. Il n'avait pas grand-chose et il gouvernait fondamentalement par décret. La situation actuelle... effectivement, va changer la donne. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, hein, ça a été dit sur d'autres politiques hein, publiques, il va pouvoir légiférer éventuellement, puisqu'il a beaucoup plus, même si c'est une minorité, il a de la marge de manœuvre au niveau effectivement des instances du Parlement et du Sénat aussi pour pouvoir faire voter des lois. Donc est-ce que ça va aussi concerner ce passé dictatorial? C'est à voir, mais c'est pas impossible.
Donc attendons de voir aussi à l'approche du 24 mars prochain en 2026, le 50e anniversaire du coup d'État. Je vous remercie beaucoup, merci Nadia Tahir. Merci d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence en études hispano-américaines à l'Université de Caen-Normandie, membre de l'équipe Airlis. David Coppello, juste un mot sur la nomination de ce nouveau ministre de l'armée, le chef d'état-major des armées, Carlos Alberto Presti, ministre de la Défense. Donc, est-ce que pour vous, vous y voyez vraiment un changement dans un pays dont vous disiez récemment que le milléisme, on pouvait le lire comme un autoritarisme sans armée, parce que l'armée est assez faible en Argentine comparée au Brésil, comparée au Salvador par exemple. Est-ce que là c'est un tournant?
Alors c'est un tournant parce que, disons que c'est vraiment une provocation, je pense, de la part de Milei de nommer un militaire ministre de la Défense pour la première fois en démocratie, pour la première fois depuis 42 ans, juste avant le cinquantenaire du coup d'État. Cela dit, ça s'inscrit dans une tendance plus large qui est, effectivement, c'est pas central dans le gouvernement de Milei, ce fait de revisiter la mémoire de la dictature, mais ça s'inscrit dans ça. Ça veut pas dire non plus qu'il y a une militarisation du gouvernement, en tout cas à ce stade, hein, puisque, de fait, les soldats, les militaires, n'ont pas été particulièrement gâtés par les politiques milléistes, notamment en termes de pouvoir d'achat.
Ouais,
donc il y a une chose qui est la mémoire des militaires et le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur de la structure étatique.
Alors, pour conclure cette série dans laquelle on n'a malheureusement pas pu parler, notamment du Brésil où plus de 120 personnes ont été tuées récemment lors d'une énorme opération de police qui a tourné au massacre dans une favela de Rio, une opération policière à la demande du gouverneur local. L'Amérique latine, qui a longtemps été un réservoir d'imaginaire politique traditionnellement associé à gauche, guévarisme, bolivarisme, néo-zapatisme, est-ce que elle nourrit aussi aujourd'hui le folklore des droites radicales contemporaines?
Oui, je pense qu'on peut dire que peut-être que Milei, c'est une sorte de Che Guevara de droite contemporain, qui apparaît comme un symbole, comme une source d'inspiration, notamment parce qu'il a aussi su exporter un certain nombre de gimmicks, de slogans, d'images, comme celle de la tronçonneuse qui a pu être utilisée comme pins, etc. etc. Et donc on voit circuler un milléisme français, un milléisme européen, notamment chez des figures comme Éric Ciotti, comme Louis Sarkozy qui fait une longue interview de Millet il y a quelques mois, etc. etc. Donc c'est intéressant de voir dans quelle mesure ce kit du milléisme est exportable ou pas et s'exporte de fait dans la période actuelle.
Il y a un parti milléiste français, un kit dont la consommation ou la copie est libre de droit. Une des pistes de réflexion que vous amorcez d'ailleurs dans votre livre, dont vous pouvez me rappeler le titre, je ne l'ai plus en tête, votre essai qui est apparu cette année, en 2025, aux presses universitaires de Rennes.
Oui, c'est les droits humains armés, guérilla, dictature et démocratie en Argentine.
Et qui fera l'objet d'une présentation débat à la Maison de l'Amérique latine le 10 décembre 2019. Et j'ajoute juste que tout à l'heure, le Book Club Marie Richeux recevra Leila Guerriero pour son livre « L'appel, histoire d'une femme argentine » paru chez Rivage, où elle raconte, vue aussi depuis un regard de femme, tout ce qui s'est passé à l'ESMA, l'école de mécanique de la marine, centre clandestin de détention et torture pendant la dictature.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Le Kenya, Catherine, dénonce des violences sexuelles et d'autres crimes commis par les soldats britanniques.
Des décennies de viols, d'agressions et d'abandons d'enfants conçus par des soldats britanniques et des Kenyans, c'est ce que détaille sur près d'une centaine de pages un rapport parlementaire à Nairobi, relayé notamment par le journal kenyan The Standard à propos des troupes britanniques stationnées près de la ville de Nanyuki. C'est là, dans le centre du Kenya, qu'un millier de soldats kenyans reçoivent chaque année une formation de la part du Royaume-Uni, tandis que des milliers de soldats de l'unité de formation de l'armée britannique s'entraînent depuis des décennies sur place, explique la BBC, suscitant la controverse au point que cette force est de plus en plus perçue comme une présence occupante plutôt que comme un partenaire de développement, les résidents touchés établissant des parallèles avec les injustices coloniales, rapporte la BBC et le Télégraphe. Parmi les pires cas de violence recensés depuis 1965 figure le meurtre d'Agnès Wanjuri, commis en 2012. La radio kenyane Capital FM a rencontré sa nièce, Esther, l'été dernier. Elle avait 8 ans quand sa tante, Agnès, a disparu.
After 2 months, we learned that her body has been discovered in a hotel septic tank. And so that's when we knew it was...
Au bout de 2 mois, on a appris que son corps avait été retrouvé dans la fosse septique d'un hôtel. C'est là qu'on a compris que c'était un meurtre, car les dernières personnes avec qui elle avait été vue étaient un groupe de soldats britanniques. Ils sont racistes, car il s'agit d'Africains. Ils étouffent l'affaire et prennent leur temps pour la résoudre, mais quand il s'agit des leurs, alors là ils agissent. Mais pas quand ce sont des Kenyans, dénonce au micro de Capital FM Esther Njoki, la nièce d'Agnès Wanjiru, assassinée en 2012. Un meurtre dont est accusé depuis un mois environ un soldat britannique, rappelle la BBC, visé depuis septembre par un mandat d'arrêt de la justice kenyane. L'homme de 38 ans a comparu début novembre devant un tribunal britannique, indiquant s'opposer à son extradition vers le Kenya qui le réclame. C'est tout un système d'impunité que contestent aujourd'hui les députés à Nairobi, sans compter d'importants dégâts environnementaux, explique le journal kenyan The Star, des inquiétudes quant à l'utilisation possible de phosphore blanc, tristement célèbre, rappelle la BBC, pour la gravité des blessures qu'il provoque.
En Inde, Catherine, vous nous parliez hier de New Delhi qui avait ordonné l'installation sur tous les nouveaux téléphones portables d'une application de cybersécurité.
Contrôlée par le gouvernement, un dispositif capable de localiser les téléphones, de signaler les appels frauduleux, précise le média indien First Post. L'opposition indienne et de nombreuses ONG ont aussitôt dénoncé la volonté du Premier ministre Narendra Modi, ultra-nationaliste hindou, de mettre sa population sous surveillance, rapporte le journal indien The Hindu et Annie News. Eh bien, le gouvernement indien a renoncé hier à imposer l'installation de cette appli sur tous les portables vendus sur son sol. Le gouvernement reste néanmoins confiant dans son application baptisée Sanchar Sati. Elle a été téléchargée 600 000 fois en une seule journée, explique le gouvernement dans un communiqué lu par une journaliste du média indien First Post.
Here's what it says. Given Sanchar Sathi's increasing acceptance, the government has decided not to make pre-installation mandatory for mobile manufacturers.
Compte tenu de l'acceptation croissante de Sanchar Sathi, le gouvernement a décidé de ne pas rendre sa pré-installation obligatoire pour les fabricants de téléphones portables. Autrement dit, puisque l'application continue à être adoptée, rapporte First Post, un déploiement obligatoire n'est plus nécessaire. Sanchar Sathi est présenté comme une application de protection des consommateurs. Pourtant, ses détracteurs estiment qu'il s'agit d'un outil de surveillance car l'appli conçue par le gouvernement exige l'accès à de nombreuses données comme la possibilité de passer et de gérer des appels, d'envoyer des messages, d'accéder à votre historique, de consulter des photos et d'autres fichiers et même d'utiliser l'appareil photo du téléphone, énumère First Post. C'est cette volonté d'accéder à toutes ces informations qui a déclenché la polémique. Apple aurait refusé de préinstaller cette appli sur ses téléphones et c'est bien pour cela, parce qu'Apple a refusé de se plier à l'ordre de New Delhi, que le gouvernement indien a finalement cédé en renonçant à imposer son logiciel de cybersécurité. C'est en tout cas l'analyse de The Verge, site américain spécialisé dans l'actualité technologique. Puisque vous avez commencé d'ailleurs à m'envoyer des questions sur le sujet, ce sera le thème de notre revue interactive du samedi. Continuez à m'envoyer vos remarques, vos demandes d'approfondissement sur la surveillance du gouvernement Modi dans le pays le plus peuplé au monde.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Et tout de suite, c'est le Midi de Culture.